Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Notre invité cet après-midi se demande pourquoi vieillir nous fait si peur et comment remédier à cette angoisse, pourquoi certains ne parviennent pas à se réjouir de ce supplément de vie quand ils sont en bonne santé évidemment, et d'en profiter pour créer, aimer, nouer des relations empathiques avec les autres, bouger davantage. Et puis à quoi bon se lamenter sur l'inexorable vieillesse qui prend possession de nous, chanceux que nous sommes d'être encore en vie. Chaque matin, l'auteur du best-seller mondial Éloge de la lenteur, Karl Honoré, est notre invité. Il nous raconte pourquoi, en vieillissant, nous possédons toutes les cartes en main pour devenir la personne que nous aurions dû être depuis toujours. Mes complices cet après-midi, Christophe André et Marie-Laure Sonnenschein de Femme Actuelle. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Karl Honoré.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste d'origine canadienne, vous êtes écrivain, vous vivez à Londres et vous avez travaillé pour The Observer, The Economist, pour le National Post, et vous êtes surtout connu pour votre best-seller mondial Éloge de la lenteur, hein, disponible en poche, et vous publiez en France, chez Marabout, La révolution de la longévité, sous-titré Toutes les raisons de profiter pleinement de l'allongement de la vie. Alors, votre livre, c'est un manifeste tout au long de sa vie, jusqu'au bout. On peut aimer, travailler, créer, s'occuper des autres, s'engager, s'épanouir sexuellement, sans limite, sauf peut-être celle de la santé.
Ouais, tout à fait. La thèse principale de mon nouveau bouquin, c'est que le vieillissement, ou vieillir, c'est un privilège plutôt qu'une punition. Et moi, je suis arrivé à cette enquête avec une perception profondément négative et péjorative du processus de vieillir. J'avais honte, j'avais peur, et je voulais savoir s'il y avait une autre histoire à raconter sur le vieillissement. Et le spoiler, c'est que oui, il y a une très bonne histoire à raconter sur le... Il y a un autre côté de la médaille.
Alors, votre livre débute par un tournoi de hockey à Gateshead, dans le nord de l'Angleterre. Oui. Vous marquez le but décisif qui mène votre équipe en demi-finale. Puis là, un responsable du tournoi vous ramène sur terre en insistant un peu lourdement sur votre âge. Vous aviez 48 ans à l'époque. Et en une seconde, vous passez de marqueur de but à celui de papy du tournoi. Et revenu dans le vestiaire, une tonne de questions vous assaillent.
Une tonne de questions, oui. En fait, je suis revenu dans le vestiaire. J'avais marqué un but, un de ces buts qui vont être dans mes faits saillants jusqu'à la mort. Et on me dit que je suis le joueur le plus vieux du tournoi. Et ça m'a choqué, ça m'a frappé profondément. Je savais que j'étais parmi les plus vieux, mais c'était le fait d'être le plus vieux qui m'a fait faire face à quelque chose que j'avais caché et tapé pendant beaucoup de temps, et c'était mon propre vieillissement. Je jouais bien, je continuais à jouer bien, j'aime bien jouer, mais je pensais jamais, j'évitais le processus d'analyser qu'est-ce que ça signifie, mon âge. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire face à des grandes questions. Hein. Je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées avant. Est-ce que je fais tâche ici? Est-ce que les gens se moquent de moi? Est-ce que je devrais peut-être embrasser un passe-temps un peu plus doux, le bingo, par exemple? Et je suis revenu de ce tournoi-là complètement traumatisé. Et je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, je fasse une enquête pour comprendre cette angoisse.
Et pourtant, vous avez aujourd'hui 52 ans, vous faites moins que votre âge. Est-ce que c'est un compliment quand on vous dit ça? C'est ambivalent.
C'est compliqué, parce que le problème, c'est que la société nous envoie toujours le message qu'il faut rester jeune. Et que le but, l'objectif de la vie, c'est de paraître jeune, de ne pas faire notre âge, etc. Et moi, je trouve ça agiste. Et en fait, le message principal de mon livre, c'est que l'âge chronologique est en train et devrait perdre son pouvoir de nous définir et de nous limiter. Et une fois qu'on commence à dire « Ah, vous avez l'air plus jeune, plus moins », on entre dans ce jeu toxique de de nous mettre dans des boîtes. Mmh. Et c'est un peu ça mon objectif, c'est de faire sortir les gens de cette boîte pour pouvoir définir ce que ça signifie avoir 52 ans, 32 ans, 72 ans pour chaque personne, parce que c'est différent. Il y a pas une formule universelle. Et quelqu'un peut avoir... Moi, en fait, j'ai 51 ans. Et à 51 ans, je continue à jouer au hockey. Mais il y a beaucoup de gens à 51 ans qui n'ont pas le goût, ou peut-être qu'ils n'ont même plus la capacité de jouer, mais ça ne veut pas dire que leur vie est un échec ou une reddition ou une tragédie. Au contraire, ils peuvent trouver autre chose.
Carlo Noré, nous avons tous connu ce moment glaçant où l'on se dit, ça y est, je deviens vieux, je passe de l'autre côté du flanc de la montagne. Et les événements déclencheurs sont très nombreux.
Oui, souvent c'est une maladie, c'est le corps qui, à un moment donné, est plus capable de faire ce qu'il pouvait faire avant. Mais souvent c'est un message culturel, c'est un commentaire, une critique, quelque chose que quelqu'un nous dit, comme même ce qui m'est arrivé à ce tournoi de hockey, l'idée de vieillir, au fond, c'est comme une camisole de force. Hein. On se trouve complètement limité par cette idée de ce que ça veut dire avoir 50 ans, avoir 35 ans, avoir 75 ans.
Cela devrait être une fête, une fierté de vivre au-delà de 70, 80 ou 90 ans, comme le rappelle très bien l'anthropologue Marc Auger dans l'un de ses livres. Vieillir n'est pas une malédiction. Quand je pense par exemple à titre personnel à ses camarades de classe ou de colonie de vacances qui sont décédés à 14, 15 ou 16 ans dans un accident de la route et qui n'ont pas eu la chance de vieillir.
En fait, c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. Et je crois qu'il y a une vieille blague de Woody Allen qui dit que j'aime bien vieillir parce que l'alternative est encore pire. Et au fond, c'est ça, non?
Christophe André, vous avez lu le dernier livre de Carlo Noré, La Révolution de la Longévité.
Oui, 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 c'est un très bon bouquin, félicitations. C'est parce qu'il se lit, comme on dit, comme un roman, c'est un récit. Vous avez enquêté, vous avez rencontré des spécialistes, vous parlez de vos états d'âme, des recherches scientifiques. Ce mélange fait une conversation, une réflexion, un cheminement aussi sur le vieillissement qui est tout à fait passionnant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'anecdote dont parlait Ali Rebéi sur ce moment où dans votre équipe de sport vous apercevez que vous êtes le plus vieux. Mmh. Moi j'ai vécu ça aussi douloureusement, ce moment où j'ai compris lors d'un de mes derniers matchs de rugby, je devais avoir 34 ou 35 ans, j'ai pris un plaquage terrible. Mmh. Et là j'ai senti mon corps se disloquer et le type qui m'avait plaqué avait 15 ans de moins que moi. Et là, je me suis dit, c'est ton dernier match, sinon ces histoires vont mal finir. Et ça a été triste. C'était pas d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'était pas l'événement chronologique, mais l'événement biologique et l'événement sociologique aussi. Me dire, ben voilà, tu ne peux plus jouer au rugby, alors tu vas continuer de le regarder à la télé, tu vas continuer de faire tout un tas d'autres sports. Mais comme vous, assez rapidement, je me suis dit, ben voilà, c'est ok, tu peux encore faire plein de choses, mais c'est vrai que ces histoires de vieillissement nécessitent un travail à la fois d'acceptation que l'âge est là, que notre corps vieillit, et puis aussi, j'allais dire, de reconversion, réenvisager la suite sous un angle joyeux. C'est vrai qu'on est des vénards d'être toujours là, finalement.
Ouais, c'est un peu la clé, c'est de réimaginer le futur, notre propre avenir, avec un esprit ouvert et positif et optimiste. Et moi, il m'est arrivé quelque chose de semblable avec... je suis très joueur de hockey, c'est un peu une religion canadienne. Et je jouais avant au hockey sur glace, qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. Et j'ai dû laisser l'hockey sur glace à cause d'une claquage aussi, c'est pareil. Mais maintenant, je joue au hockey sur balle. Alors, c'est une adaptation. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans une dépression et voir ça comme une perte. C'est un changement. C'est comme lire un roman, on passe au prochain chapitre. Pas en pleurant parce qu'on laisse le chapitre antérieur à d'avant, mais avec les yeux et l'esprit ouverts pour embrasser le prochain chapitre, la prochaine étape.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, en même temps, tout ne se décrète pas dans ce que vous expliquez. Finalement, la société nous renvoie à notre âge en permanence. Mmh. Alors, je ne parle même pas des femmes où autour de la cinquantaine, il se passe un certain nombre de choses. Quand vous êtes sondé, par exemple, vous avez une catégorie 35-49 ans. Bah, au-delà de 49 ans, ça y est, vous avez compris, vous avez basculé. Vous avez des cartes de réduction pour les transports, par exemple, passé un certain âge. On est quand même tous dans des cases.
Oui, en fait, et c'est inévitable à un certain point, mais je pense que de plus en plus, ces caisses, ces boîtes disparaissent. Par exemple, si vous regardez ce qui se passe chez Amazon et Netflix, là, ils ont cessé de traquer ou d'identifier leurs clients par âge chronologique. Ils font par goût. Alors, ils mettent pas tous les gens de 35 à 45 ans dans la même boîte. Ils mettent tout le monde qui regarde Breaking Bad dans la même boîte. Alors, c'est déjà un changement tectonique, à mon avis. C'est pas la fin de l'histoire, mais c'est le début d'un changement profond et culturel. C'est un séisme culturel qu'on est en train de commencer et de vivre.
Claire Destacan, Clara Marliot et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter un titre de 1982. Cette année-là, naissait le chanteur Julien Doré et disparaissait Georges Perec. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Plus ou moins nette, comme les piqûres en cachette, l'alcool et les cigarettes. Il y a des pilules, des tablettes, des salades sans vinaigrette. Moi je suis toujours à la fête chez toi. Pour décoller de la planète,
François Hardy, moi vouloir toi.
Vous a-t-on parlé du forfait senior, monsieur ?
Grand bien vous fasse.
On peut vous proposer soupe, purée, yaourt. En dessert, compote.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande pourquoi avons-nous peur de vieillir, en compagnie de l'écrivain Karl Honoré.
Je pense que l'agisme est dans les petits détails, même dans le geste. On pourrait prendre le geste le plus bienveillant. Hein. On me donne à m'asseoir dans le bus. Hein. Il y a y a une bienveillance évidente, et derrière cela, il y a, je serais bien resté assis, et puis maintenant je suis debout, et puis lui, alors pourquoi il était... Bon, il y a une espèce d'agressivité larvée.
Par exemple, la revue Notre Temps, qui est destinée aux vieux, la couverture, c'est toujours une personne de 50 ans, alors que ça se destine aux 70 ans. C'est des messages extrêmement puissants, ça. On veut valoriser les vieux en prenant des jeunes... Alors, plein
soit vendable, autrement. Voilà.
Mais attendez, là, vous affirmez que vous êtes sûr ?
Mais bien sûr. Si notre temps met un vieux en couverture, il va réduire.
Ce n'est pas vendable.
Mais ça dépend dans quel état il est. S'il est, gravataire, s'il est croulant.
Extrait du documentaire « Pourquoi nous déteste-t-il les vieux ?» réalisé par Marcel Hamon. Carl Honoré, petite réflexion sur ce qu'on vient d'entendre, là.
C'était un exemple de l'agisme, hein. Et l'agisme au fond, c'est le l'acte de
caricaturer, de discriminer de façon systématique des personnes, voilà, en raison de leur âge,
d'imposer des stéréotypes, des clichés, et ça nous limite la vie. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'agisme est lié au culte de la jeunesse, l'idée que plus jeune est toujours mieux.
Mais vous-même, quand vous aviez la vingtaine, Carl Honoré, vous étiez horrifié et dégoûté, vous l'écrivez devant toute personne de plus de 35 ans.
J'étais un agiste par excellence. Et j'ai honte d'y penser aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde, c'est la culture dans laquelle on se trouve. C'est une culture qui nous envoie toujours le message que vieillir, c'est un processus de déclin, de dépression, de perte, qu'on devient de moins attractif, moins énergique, moins productif, moins créatif, moins content, moins nous-mêmes. Et ça fait que, voilà, l'effet, le résultat, c'est que nous avons, face au processus du vieillissement, on a honte, on sent
une culpabilité. Il y a un dégoût de soi dans l'agisme. Tiens, je cite un courriel que nous avons reçu, hein, Anna, qui nous dit « Je hais la vieillesse et sa transformation si laide des corps et parfois des âmes.
Mm-hmm. » Ben, le corps change. Il y a des changements dans le corps qui ne vont pas nous plaire. Et ça, je ne suis pas utopique, je ne suis pas venu ici pour vous dire que tous les aspects du vieillissement sont hyper positifs. Non. Ce que je préconise, c'est une vision plus nuancée du vieillissement. D'accepter qu'il y a des choses, surtout au niveau du corps, qui vont changer de manière pas très bienvenue. Mais il y a beaucoup de choses qui vont rester le même. Et il y a des choses qui vont même s'améliorer. Et c'est ça un peu le prochain pas pour l'humanité, c'est d'accepter que le vieillissement, surtout que en ce moment nous sommes en train d'entrer dans une âge doré du vieillissement. Ça n'a jamais été un meilleur moment dans l'histoire humaine pour vieillir. Alors il y a beaucoup de raisons, motifs d'optimisme par rapport au vieillissement pour tout le monde.
Bonjour Jean-Paul, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, avez-vous peur de vieillir, vous qui avez 77 ans?
Enfin... Oui, ben non, je n'ai pas peur de vieillir. Je n'ai pas peur de vieillir parce que je profite de tous les instants présents, de la vie qui se présente devant moi. Là, actuellement, si vous permettez, j'ai un très beau ciel bleu autour de moi, au-dessus de moi. J'ai un magnifique arbre tout vert devant moi et je dis que la vie est belle et que j'ai surtout beaucoup de chance de la vivre dans ce sens-là.
Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Paul, de toutes ces images qui montrent que vieillir, c'est peut-être une malédiction quand on est bombardé par des messages qui assimilent le vieillissement à une grave maladie? Je pense aux images de grande dépendance et je pense par exemple aux dernières images publiques du président Jacques Chirac qui montrait un personnage en grande souffrance physique. Est-ce que ce sont des images de la vieillesse qui vous horrifient?
Écoutez, je pense que quelque part, quand même, si vous prenez l'exemple de Chirac, Chirac a eu une vie quand même, enfin, très chargée, très belle, il a rempli sa vie. Bon, que derrière, on subisse des problèmes au niveau de la maladie, je crois qu'on peut l'accepter. Pour le moment, je suis en bonne santé, bien que je suis dans un fauteuil roulant parce que j'ai été opéré d'un tendon dernièrement. Mais je crois que il faut accepter la vie telle qu'elle se présente devant nous. Et c'est vrai que quelquefois, quand je vois des images de vieux qui sont dans une très très mauvaise posture, ça me fait mal, tout simplement. Mais personnellement, je n'ai pas peur de ces moments-là. Pour le moment, je vis bien et je suis très heureux.
Merci beaucoup.
Avec les autres.
Merci beaucoup, Jean-Paul, pour votre témoignage. Bonjour Hélène, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous, vous avez 70 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et longtemps, vous avez eu peur de devenir vieille, comme vous nous l'avez dit,
oui,
hors antenne?
Oui, quand je suis arrivée en retraite, on me disait c'est formidable la retraite, et je disais, bon, c'est le toboggan vers le cimetière. Donc ça coupait un peu la conversation. Mais pour moi, c'était vraiment ma vision du vieillissement. Et comme j'ai toujours été quelqu'un en contact avec les autres, j'ai pris des engagements politiques dans ma commune. Et puis maintenant, eh bien, j'ai accepté d'être officiante laïque. Mmh. C'est-à-dire que je célèbre à la place des prêtres, quand il n'y en a pas, les obsèques des gens qui veulent être inhumés à l'église. Et je trouve que c'est une mission qui est très belle. C'est pas une mission triste, qu'on pourrait croire, parce que c'est une mission de passeur d'espérance. Et je pense que le fait d'avoir 70 ans et d'avoir vécu une longue, enfin déjà une longue vie finalement, eh bien ça m'aide. Et puis d'aider les gens, ben ça vous aide à rester jeune. En plus, vous êtes toujours obligé de travailler, parce que préparer une animation, c'est pas seulement écouter les gens, c'est choisir des textes avec eux, et aussi préparer un commentaire de texte. Et ça, c'est un travail intellectuel qui est difficile, mais qui vous maintient jeune et finalement en forme.
Carl Honoré, est-ce que Hélène n'a pas trouvé ce que les Japonais appellent l'ikigai?
Oui, il semblerait que oui.
Expliquez-nous ce que c'est.
Oui, l'ikigai, c'est l'idée d'avoir un objectif, quelque chose, un but dans la vie, quelque chose qui vous anime le matin, vous donne la force de vous lancer à la journée tous les matins. Oui, elle a trouvé. Et ça, c'est une des choses qui m'a vraiment étonné dans mon enquête, c'est que moi, j'avais en tête cette vision de... surtout des années 60, que c'était la dépression, la tristesse. C'est un peu la vision, la perception, l'image que nous avons dans la culture. Mais si vous regardez les études, c'est tout le contraire. En fait, on a entendu ça dans la voix du premier, c'était Jean-Paul, qui parlait de la... De profiter de chaque moment, de vivre sa vie pleinement. Les êtres humains suivent ce qui s'appelle une courbe... Le bonheur suit une courbe en forme d'U. Alors, où nous sommes très contents comme enfants, puis on va au bas, aux quarantaines, et après ça, ça remonte.
Christophe André, vous confirmez?
Ah oui. Ça a été une grande surprise quand j'ai découvert ces études qui montrent qu'effectivement, lorsqu'on fait une grande analyse sur le niveau moyen dans la population de bonheur entre 20 et 70 ans, eh bien, le moment où ce niveau de bonheur est le moins élevé, c'est plutôt vers 30, 40, 50 ans, parce qu'on est sous pression des événements, sous pression du travail, il faut s'occuper des enfants, rembourser le crédit de l'appartement, etc., construire sa carrière. Et puis, tout à coup, la courbe du bonheur s'élève à partir de 55-60 ans, mais elle dépasse le niveau de bien-être qu'on avait à 20 ans, parce qu'on a compris des tas de choses sur la vie grâce au fait qu'on est toujours vivant. Et alors c'est sans doute vrai pour la plupart des gens. Il y a des gens qui vieillissent dans l'amertume, mais pour la plupart des personnes, eh bien, il y a une intelligence de vie qui se met en place et qui nous aide à habiter ce vieillissement.
Oui, on est plus à l'aise, on est plus confortable avec soi-même. Et un joli exemple, c'est celui de Pete Townsend, Le guitariste du groupe The Who. Quand il avait 20-25 ans, il a écrit une des phrases les plus agistes de la musique populaire. J'espère mourir avant de devenir vieux. Mais quand il a eu 60 ans, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus content à 60 ans qu'il avait été atteint. Un autre exemple, c'est l'idée de la fameuse chroniqueuse Anne Landers aux États-Unis qui a écrit... qu'à 20 ans, on se soucie de ce que les autres pensent de nous. À 40 ans, on cesse de se soucier de ce que les autres pensent de nous. Et à 60 ans, on se rend compte que les gens ne pensaient jamais rien de nous. Et pour moi, ça souligne un peu cette légèreté ou liberté que nous trouvons avec le vieillissement. On est moins inquiet, moins préoccupé. On peut mettre l'emphase sur notre propre chemin. On peut trouver nos propres priorités. On peut trouver notre propre ikigai.
Vieillir, c'est s'affranchir du joug de l'opinion des autres. Et vous citez Lao Tzu qui disait « Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. » Et Virginia Woolf qui disait dans le même sens « Le regard des autres est notre prison, leur pensée, notre cachot. » Et vieillir, ça nous permet de s'extraire de ce cachot et de cette prison.
De nous échapper. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent des gens plus âgés, c'est que « Enfin, j'ai l'espace, la liberté, le courage, l'animation pour définir mon propre chemin. J'ai vécu pendant 45 ans, 50 ans, et je suivais les conseils des autres. Je vivais dans une prison, mais maintenant je suis libre. Et ça va sûrement lié à ce boom, non, de bonheur qu'on trouve après 50 ans.
Merci beaucoup Hélène de nous avoir appelé. Bienvenue Florence.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez 56 ans?
Oui, dans 2 jours.
Ben, je vous souhaite pas un bon anniversaire avant. Non, faut pas le fêter avant. est-ce que vous avez peur de vieillir?
Alors, peur, c'est un bien grand mot. Je dirais que j'ai vraiment une question qui me taraude, à laquelle j'aimerais bien que votre invité réponde, ou en tout cas me donne son point de vue. Le problème, c'est qu'en fait, plus les années passent, en plus elles passent vite. Plus on vieillit et plus le temps s'accélère. Et ce qui m'angoisse un peu, c'est que j'ai des milliards de choses à faire encore dans ma vie et que plus ça passe, au moins il me reste de temps et en plus ce temps passe vite. Donc ça, c'est vraiment un peu le cœur de ma question par rapport à l'âge. Sinon, si je peux me permettre juste, moi je me suis, depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, enfin d'être assez disponible dans mon emploi du temps. Et il y a vraiment une chose qui est apprise par la plasticité neuronale, enfin tout ce qu'on sait, forcément on perd. Et le fait de prendre des habitudes, de ne jamais avoir d'habitude, pardon, fait que je stimule toujours mon cerveau. Je refuse de faire 2 fois la même chose, la même journée, au même moment. Je désorganise mes journées à l'envi. La seule habitude que je veux prendre, c'est de ne pas en avoir. Alors, je ne sais pas si c'est bien, au bout du compte, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une sorte de dynamique qui va peut-être me permettre de rester un tout petit peu plus vaillante et plus longtemps.
Mmh. Joli témoignage de Florence.
Très joli, un très bon conseil. En fait, c'est la nouveauté. Ça nous rafraîchit, ça nous nourrit, et ça fait du bien. Hein. C'est un très bon tip pour mieux vieillir, c'est de toujours trouver des choses nouvelles, non, un nouveau site, pas tomber dans une routine, dans une formule fixe. Il y avait une question, l'accélération.
Bon,
c'est tout un phénomène noté, documenté.
Vous qui avez écrit l'éloge de la lenteur.
Oui, en fait, on revient vers mon premier ouvrage. Oui, ça c'est un phénomène très bien documenté, que avec l'âge, on a un sentiment, une sensation d'accélération. Ça c'est, je crois, inévitable. La science est très compliquée, mais il y a, bon, si on utilise la philosophie de la lenteur, la philosophie slow, je pense qu'on peut modifier un petit peu ce phénomène en faisant moins. je crois que on est pris dans une société où on sent toujours la pression de faire de plus en plus de choses, et ça transforme chaque moment de la vie en course contre la montre. Alors, une des avantages qu'on gagne avec le vieillissement, c'est la faculté ou la capacité de choisir, de prioriser. Et je conseille à Florence de prendre un peu de recul, regarder tout ce qu'elle essaie de faire pendant la journée, et laisser tomber une tâche ou une chose pour laisser entrer un peu d'oxygène, un peu d'espace dans son emploi du temps.
Et Florence, il y a ce courriel de Kat qui nous dit « Le jour de mes 60 ans, j'ai reçu une invitation de la ville de Vincennes pour le bal des seniors et une pub pour organiser mes obsèques. » Vous n'en êtes pas encore là, Florence. Ouais, hein, vous avez encore quelques années.
Moi, quand j'ai eu 50 ans, j'ai reçu une carte d'anniversaire qui disait « 50 ans, c'est le nouveau... » Qu'est-ce que je disais? Et ça... il faut rigoler, non, c'est comique, mais en même temps ça renforce les stéréotypes, les clichés, et le langage est très important ici. Même en français, vous avez des expressions comme un coup de vieux, sans sentir l'âge. Vous faites ça très bien pour votre âge, jeune d'esprit, toutes ces expressions que nous employons souvent toute la journée, même sans y réfléchir, renforce cette idée que le vieillissement est un problème, une punition, une malédiction.
Merci beaucoup Florence de nous avoir appelé. Allez, il est temps de retrouver Les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de Christophe André.
Alors, écoutez-moi bien, mon jeune Ali. Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la vérité. C'est de Chamfort, alors c'est le moraliste, hein, pas le chanteur, et ça s'applique parfaitement à notre sujet du jour. Plus vieux, plus heureux, Ça réjouit tout le monde d'entendre ça, mais est-ce la vérité? Eh bien oui, apparemment, d'après la plupart des données chiffrées dont nous disposons, c'est plutôt vrai, en tout cas en Occident et dans la tranche des personnes de 50 à 70 ans. Dans cette période-là, une majorité d'entre nous vit ces années les plus heureuses, les plus épanouies, les plus apaisées. Paradoxal tout de même, alors que le corps vieillit, les rides apparaissent, les cheveux blanchissent ou s'éclaircissent, on a de plus en plus souvent mal quelque part, comment fait-on pour se sentir tout de même plus heureux à 60 ans qu'à 20 ou 40? Peut-être justement à cause de cela, ou plutôt grâce à cela, grâce à toutes ces adversités et ces rappels à l'ordre. À partir de 50 ans, on finit par comprendre que notre vie et notre corps ne seront pas éternels. Que le bonheur, ce n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Et que c'est maintenant ou jamais. On le savait avant, bien sûr, quand on était plus jeune. Mais on le savait seulement dans sa tête. Là, on le sait dans son corps. Première limitation physique, première maladie chronique, premiers amis de notre génération qui meurent. Impossible alors de continuer à fermer les yeux et à se croire immortel. On le sent bien que le compte à rebours a commencé. À ce moment, on utilise enfin son expérience de la vie. On comprend qu'il faut éviter les souffrances inutiles et se contenter d'affronter celles que le destin nous envoie, sans en rajouter. On comprend qu'il faut savourer tous les bonheurs, même les tout petits, même les imparfaits, même les incomplets, même quand on a mal dormi, même quand il fait gris. On se rapproche aussi de ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est pas le statut social ni l'apparence physique. Les chemins du bonheur ne passent pas par la chirurgie esthétique ou l'épaississement du compte en banque. Ce qui compte, c'est l'amour. Les amoureux vivent plus heureux, qu'il s'agisse d'amour de la vie ou d'amour des humains, d'amour des copains ou d'amour du conjoint. Écoutez, écoutez ce qu'en dit le vieux sage du Sud-Ouest, Marcel Jean-Pierre Balthazar Miramont.
Quand viendra l'âge d'être pépé dans pas mal d'années, quand mes cheveux gris seront devenus tout blancs, m'aimeras-tu comme à présent? Et si je rentre aux heures indues, me bouderas-tu? Seras-tu la même, celle que j'aime, dans 45 ans?
45 ans, yeah.
C'est pas une chanson des Beatles, ça?
Absolument, When I'm 64, mais j'ai trouvé que la version de notre cher Marcel Amand, était plus dans le sujet, plus vieux, plus heureux. Alors, la vérité, sincèrement, c'est que vieillir, ça n'est pas une chance. Qui signerait pour prendre tout de suite 10 ans de plus? Mais vous connaissez le bon mot de Woody Allen. Vieillir reste à ce jour le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir. Et c'est le principal avantage qu'on peut reconnaître au passage des années. Préfère-t-on être vieux ou mort? Vieillir, ce n'est pas une chance donc, mais avoir vécu, oui. Continuer de vivre, oui encore. Et ce simple constat nous montre la direction à donner à nos efforts. Inutile de vouloir à tout prix rester jeune. C'est mauvais signe. Vous connaissez le bon mot de Jules Renard dans son journal. La vieillesse, c'est quand on commence à se dire « je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Mais souhaiter bien vieillir, oui. Cultiver son amour de la vie, oui. Aimer la vie malgré tous les soucis du corps, malgré les deuils, malgré les soucis, oui. Regardons tout autour de nous les modèles inspirants de vieillissement heureux, ne pas se plaindre, ne pas comparer, ne pas glorifier le passé, ne pas donner de conseils non demandés, rire, aller vers les plus jeunes, les écouter sans s'incruster, être gai et léger, se réjouir chaque matin d'être toujours là et se réjouir chaque soir de s'y trouver encore. Voilà le programme, le seul et l'unique pour rendre vraie la maxime, plus vieux, plus heureux. Allez les amis, au boulot. Et vous, cher Ali, comment vous le sentez, votre vieillissement?
Très bien, quand je fréquente un ami de 95 ans, Raphaël Esrail, et à sa fréquentation, je me dis, il est bon de vieillir. Je vois ce personnage absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Christophe André. Vos chausses sont à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse.
Vivo,
ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale. Che sta tremando di terrore. Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale. Che sta tremando di terrore. Breve, pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene a chi alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta.
Andrea Laszlo de Simone, interprété vivo.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande pourquoi avons-nous peur de vieillir en compagnie de l'écrivain Karl Honoré. Andrea nous dit, aujourd'hui à 50 ans, à la recherche d'un job, je me sens plus vieille que jamais. Un autre courriel, c'est au bureau, lorsque des jeunes stagiaires me disaient madame et me voyaient, que je me suis sentie vieille. Marie-Laure Zonchen, Femme Actuelle.
Oui, c'est un petit message pour Clara qui me vous voit depuis, qui prépare cette émission avec vous, Géraldine, et à qui j'ai imposé le tutoiement. Je crois que ça y est, c'est bon. Oui, une précision effectivement sur cet aspect-là, l'âge arrivant en entreprise. Il y a un phénomène malheureusement qui se développe peu en France et dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est le mentorat en entreprise où finalement ce sont des aînés qui passent le relais à des jeunes, qui accueillent les jeunes salariés dans l'entreprise, qui se valorisent de par leur expérience de fait, hein, et qui sont là pour expliquer le fonctionnement, donner les clés, prendre la mesure du fonctionnement de l'entreprise, la culture aussi de l'entreprise. C'est très peu fréquent en France.
Mais c'est l'heure de changer cette situation en France.
Allons-y.
Mais des fois, les Français arrivent un peu tard à la fête, non? Mais on voit ça de plus en plus dans le monde anglo-saxon, c'est bien sûr, oui, qu'on se rend compte que les employés plus âgés ont beaucoup à contribuer en tant qu'expérience, mais aussi la productivité a tendance à augmenter avec le vieillissement, surtout dans les carrières, les travaux qui dépendent des compétences sociales, parce que les compétences sociales ont tendance à s'améliorer avec le vieillissement. On a plus de capacité de trouver des compromis, de jongler de divers points de vue, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter, qu'on peut contribuer au boulot. Et même dans les entreprises, dans le monde des start-up, des nouvelles entreprises, le grand mythe, c'est que il faut avoir 25 ans et être le prochain Zuckerberg. Mais en fait, si vous regardez les études, ceux qui lancent les start-up les plus succès sont de l'âge moyen et au-delà. Alors, c'est complètement contre l'idée reçue qui existe dans la société, mais on arrive à 45 ans, 50 ans, avec beaucoup de choses à partager et contribuer.
Et il y a le chauffeur de bus de Bangkok de 60 ans dont vous parlez dans votre ouvrage.
Ah oui.
Qui va gérer beaucoup mieux les embouteillages et les risques d'accident qu'un jeune chauffeur.
Avec son sang-froid. Oui, tout à fait, oui. Et de plus en plus, parce que la race humaine, les êtres humains, on vit en général. Alors, les opportunités multiplient. Il va y avoir beaucoup plus d'espace et pour les employés plus âgés. Même dans les entreprises qui ont des boîtes à idées, ils trouvent que les meilleures idées ont tendance à venir des employés plus âgés. Et les meilleures idées viennent de ceux qui ont plus de 55 ans. Alors, ce grand cliché productivité en baisse, non, c'est un autre mensonge, un autre mythe.
Isabelle nous dit, je remercie mes parents de représenter par la vie qu'ils mènent à 88 et 90 ans, un beau modèle de vieillissement pour leurs enfants et ceux qu'ils côtoient, aider, lire, réfléchir et bouger. Karl Honoré, en exergue de l'un de vos chapitres, vous citez Walt Disney. L'imagination n'a pas d'âge. Et vous nous incitez à profiter de la vieillesse, de ce supplément d'âge pour créer. Et vous le rappelez à plusieurs reprises dans votre livre, la créativité, vous venez de le dire, n'est pas l'apanage des jeunes en dépit d'une doxa en provenance de la Silicon Valley. Et dans votre livre, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, en prend pour son grade.
Oui, en fait, Silicon Valley, et bien, de la culture en général, on a mis sur un pédestal la jeunesse par rapport à la créativité. L'idée, c'est que la créativité, c'est une monopolie des jeunes. Mais c'est faux. C'est pas le cas. En fait, on peut être immensément créatif à n'importe quel âge. Il y a des formes de créativité qui seul prospèrent avec un peu de vieillissement. Non, il faut avoir un peu d'expérience, un peu de perspective, prendre un peu de recul, avoir le temps pour pouvoir entrer dans le sujet et le comprendre profondément. Alors, il y a aussi des études qui suggèrent qu'il y a des changements dans le cerveau qui augmentent la capacité créative. Et c'est pour ça qu'on a tous des exemples dans nos vies personnelles. On connaît des gens qui n'ont jamais eu une tendance artistique, mais après la retraite, ils se lancent vers la photographie ou ils commencent à peindre. Et c'est peut-être d'un côté parce qu'ils ont plus de temps, mais ça se peut aussi qu'il y ait un changement structurel du cerveau qui nous pousse vers une plus grande créativité.
Et comme le remarque la romancière Maya Angelou, la créativité ne s'épuise pas. Plus on l'utilise, plus on en a.
Tout à fait. Et le grand danger, le grand risque pour vieillir bien, ce sont les stéréotypes, les clichés. En fait, ça c'est une des choses qui m'a vraiment étonné dans mes études et mon enquête, c'est que l'ageisme, c'est une prophétie
autoréalisatrice,
tout à fait, que les études démontrent clairement que si vous vénérez la jeunesse et vous dénigrez le vieillissement, vous allez vieillir moins bien. Vous allez souffrir d'un déclin cognitif et physique plus rapidement, vous allez tomber dans la démence, vous allez augmenter vos chances de tomber dans la démence, et vous allez même mourir plus tôt. Alors, un premier pas pour tout le monde, c'est de résister ces clichés, ces stéréotypes. Et vous avez parlé d'un bon modèle. Ça aussi, c'est une clé dans ce changement culturel. C'est d'avoir plus de role models, de modèles. Et grâce aux réseaux sociaux, nous avons ça de plus en plus. Tous les jours, des gens vont poster des vidéos, des images de leur version d'avoir 45 ans, 55 ans, 60 ans. Et ces versions sont complètement différentes aux clichés, aux stéréotypes du déclin, de la tristesse, du manque de créativité. Ils sont en train de redéfinir ce que ça signifie vieillir. Et ça, c'est super puissant, c'est super important, parce que si on voit quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau à notre âge, ça nous donne le courage.
Et prenons pour modèle de nombreux créateurs qui ont produit de grandes œuvres passées la soixantaine. Prenons exemple sur l'artiste Louise Bourgeois, qui a travaillé jusqu'à sa mort à l'âge de 98 ans, ou encore le réalisateur Manuel de Oliveira, qui a réalisé jusqu'à l'âge de 104 ans. Ce sont des modèles, on doit puiser dans ces modèles-là, à notre modeste échelle, évidemment.
On doit les fêter, on doit en parler, oui. Et un de mes exemples préférés, c'est celui de John Goodenough, qui est un scientifique qui a maintenant 94 ans. Il continue à réinventer les piles rechargeables. Alors, c'est pas juste dans le monde des arts artistiques, c'est aussi dans la science et tout. C'est le même secret.
Donc, il ne faut pas hésiter à apprendre à jouer de la guitare, à apprendre la mécanique, à apprendre à nager à 70, 80 ans. Rien n'est perdu.
Il faut jamais faire attention à cette petite voix qui nous chuchote. T'es trop vieux pour ça.
Christophe André.
Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à la créativité, c'est que ce qui est important, c'est de se mettre régulièrement en situation d'être un débutant, de démarrer des nouvelles activités. Parce qu'au fond, quand on débute, on a plus d'avenir que de passé. Je débute le piano, je débute l'aquarelle, eh bien, j'ai tout l'avenir devant moi. Et ça, c'est très stimulant pour mon cerveau.
C'est la magie de la nouveauté. Hein.
Oui.
Oui. Ça stimule, ça ouvre l'esprit, ça ouvre...
Carlo Noré, je rappelle que vous publiez La Révolution de la Longévité. Vous avez fait une expérience, vous avez porté une combinaison de vieillissement. Pourquoi ?
Une combinaison ?
Oui, une combinaison pour vous vieillir.
Ah oui. C'était juste pour comprendre ce que ça signifie avoir un
corps. Ça vous a assez angoissé après. Hein.
Ça m'a beaucoup angoissé.
Expliquez-nous ce que c'est.
Oui, on met c'est comme un vêtement, une combinaison qui vous ajoute 30 ans de vie, non ? Alors, l'idée, c'est ils ont inventé cette combinaison pour les designers, pour qu'ils puissent créer des voitures ou des maisons adaptées à des personnes âgées. Mais moi, je l'ai fait pour avoir un peu d'empathie, de me projeter et comprendre un peu mon propre avenir physique. Et ça m'a vraiment choqué. J'avais en tête de laisser tomber le projet parce que je me suis dit, comment est-ce que je peux préconiser une vision optimiste du vieillissement si le vieillissement est un cauchemar absolu. Mais je me suis rendu compte que, bon, une combinaison de vieillissement, c'est un cas extrême et on a tous les déclins en deux minutes et
ça arrive beaucoup plus lentement.
On peut s'adapter et il y a beaucoup de problèmes qu'on ne va pas avoir non plus. Hein.
Je finirai cette émission avec les mots de Victor Hugo. Il y a on ne sait quelle aurore dans la vieillesse épanouie.
Bravo, Victor Hugo.
C'est dans votre livre. Mais en anglais, ça sonne peut-être autrement. Mais Merci Carl Honoré d'avoir participé à cette émission. La révolution de la longévité est publiée chez Marabout. Demain, je vous propose de décortiquer ce qu'est la morale en compagnie de Paul-Henri Tavoyot et d'Aïdan Diaye.